Je voudrais lire 2 Timothée 3, verset 1. Le constat que Dieu fait sur la société en général, que ce soit à l'époque où il existait, au premier siècle, hein, les apôtres, mais aussi aujourd'hui. Et voilà ce que la parole nous dit dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On va retenir la conclusion, éloigne-toi de ces hommes-là, parce que toute cette liste, en fait, elle est valable de tout temps, mais vous allez voir particulièrement dans notre temps actuel. Deuxième texte qu'on va lire, c'est 1 Timothée 1, verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, donc les commandements de Dieu, etc., la Torah, et aussi la loi que Jésus a donnée sur le mont des béatitudes. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Voilà, et je saute au verset 18, où il est dit que le commandement que je t'adresse, donc c'est un commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et en gardant une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est une parole très forte, hein, très forte, de la part de Paul, qui s'adresse bien sûr à Timothée pour l'encourager à combattre le bon combat de la foi, et en même temps qu'il vivait à ce moment-là, il y avait Hyménée et Alexandre que Paul a livré à Satan parce qu'ils ont blasphémé. Et vous savez que aux Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture, ils ont blasphémé. La semaine dernière, j'ai passé une semaine assez difficile. Difficile parce que le dimanche dernier, je n'ai pas souhaité m'exprimer sur cette cérémonie d'ouverture que j'ai vue avec Michel, parce que j'étais sous le choc. J'étais sous le choc. Et je n'avais pas assez de recul. Moi, je suis scientifique, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de beaucoup d'éléments. Surtout, plus c'est compliqué, plus ça prend du temps pour tout analyser et comprendre ce qui s'est passé. Donc toute la semaine, j'étais devant Dieu et je n'ai rien pu faire d'autre que de dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai senti qu'il y avait un tsunami spirituel, hein, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Qui est-ce qui a été choqué par cette cérémonie? C'est pour lever la main. Voilà, donc ceux qui ne l'ont pas vu, elle est toujours visible, hein, je crois. Alors, à partir du début de cette semaine, bien sûr, j'ai cherché Dieu toute la semaine, mais en même temps, j'ai écouté des pasteurs, donc des collègues, qui se sont exprimés là-dessus. Alors, il y a Samuel Peter Schmidt, hein, qui a fait cette vidéo. Alors, comme par hasard, il y a des problèmes techniques, là. Rien fait et ça marche plus.
c'est la vidéo de... En principe, c'est du plug and play, donc ça devrait marcher. Voilà. Donc, Samuel Peter Schmidt, pour ceux qui le connaissent, il est sorti aussi de sa réserve hein, pour expliquer ce que lui pensait sur cette cérémonie. On ne va pas l'écouter parce que sinon je vous laisse partir après à 3h de l'après-midi, parce qu'il y a plusieurs vidéos comme ça. Mais je l'ai écouté et bien sûr il a été heurté, il explique pourquoi par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent aussi à Mulhouse. Et en fait, il a dit ne vous taisez pas. En gros, à la fin, ne vous taisez pas. Ne restez pas silencieux par rapport à ça. La deuxième pasteur que j'ai écouté, c'est la pasteur du Taupe chrétien, qui interprète la cérémonie d'une manière différente. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vraie interprétation de la part de Samuel, mais il a parlé de la dérive de la laïcité, du laïcisme. Et lui, le pasteur Taupe chrétien, dit que c'est un rituel satanique, avec des perversions sexuelles, nos enfants, avec les drag queens, et il appelle à la prière et à l'intercession. Il est aussi... vous pouvez aussi l'écouter, puisque c'est sur le Taupe chrétien, et il a fait une vidéo là-dessus. Le troisième qui m'a interpellé, c'est le pasteur Gilles, qui en fait m'a appelé hier soir à 18h. D'un seul coup, je reçois un coup de fil de Gilles, et il m'a dit « Est-ce que je peux te parler ?» Je dis « Ouais ». Il m'a parlé de ça, et en fait, on a exactement la même approche. Donc, au bout d'une semaine de réflexion et de prière, on a la même approche. Et il m'a envoyé une autre vidéo qui a été censurée sur la plateforme YouTube, parce qu'effectivement, les autorités n'acceptent pas cette interprétation, parce qu'elle est la bonne. Vous pouvez la voir, je vais vous envoyer le lien sur WhatsApp, si vous voulez l'écouter. Et j'étais consterné, parce qu'en fait, si j'avais à faire ce matin une vidéo, j'aurais fait celle-là. Point par point, du début à la fin. Exactement les mêmes interprétations. En fait, c'est une cérémonie de lancement de l'Antéchrist, tout simplement, sous les auspices de la haute finance et de la haute maçonnerie juive. Ce qu'on sait depuis longtemps, qu'ils gouvernent la finance, ils gouvernent le monde. Mais là, c'est vraiment le summum et on rentre dans une nouvelle ère, mes amis. On rentre dans une nouvelle ère. Et ça, j'en ai pleuré, je disais, Seigneur, depuis 2000 ans, les chrétiens, ils attendent quelque chose comme ça, et là, on est en train de le vivre. Cette vidéo qui montre le cavalier noir sur la scène qui devient blanc, qui est interprété par une femme qui chevauche le cheval et qui devient un cheval blanc à la fin, annonce la venue de l'Antéchrist. Et c'est l'intronisation officielle de cette venue par toutes les nations qui marcheront à sa suite. Voilà la vidéo que vous pourrez écouter si vous le voulez, qui est censurée sur YouTube, qui est sur une autre plateforme. Et à la fin, le drapeau a été présenté au président Macron sous les auspices du Veau d'Or. Le Veau d'Or qui était là sur la tribune officielle, il était présenté. Et quand j'ai regardé Macron, il avait les yeux bleus, il rayonnait en intronisant eh bien, cette nouvelle ère de la venue de l'Antéchrist. Il rayonnait, ses yeux partaient en faisceau comme ça, tellement c'était fort. J'ai cru tomber dans les pommes, j'ai dit c'est pas possible. Vous savez, toute cette oligarchie, donc c'est un ensemble de personnes, eh bien, ils sont au service de Lucifer. Lucifer, celui qui se transforme, qui passe en ange de lumière, eh bien, c'est lui qui était intronisé au 33e degré, et il a dit, c'est le 33e Olympiade. Et là, ça veut dire que c'est l'accomplissement de ce qu'ils ont prévu, pour que maintenant, ce soit le peuple qui prenne le relais pour l'accueillir. Eux, ça fait déjà longtemps qu'ils l'ont accueilli. Alors, il faut que je vous explique un peu quelle est mon approche personnelle hein, qui fait que je puisse m'associer à cette interprétation. En fait, la cérémonie est très compliquée à décortiquer, extrêmement compliquée, parce qu'on est devant une multitude de symboles. Les formations, c'est symbole. Parce que le symbole, vous savez, vous pouvez faire un triangle, un rond, un carré, vous pouvez dire ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un symbole peut représenter 10, 15, 20 interprétations différentes. Et c'est pour ça qu'on peut se cacher derrière un symbole, on peut envoyer des messages aux uns, aux autres, etc. Et c'est pas la même chose. Du coup, après, si vous vous faites attaquer en disant vous avez dit ça, il dit non, non, ça veut dire autre chose. Par exemple, la scène, voilà, tous les chrétiens, ils se sont dit, ah, c'est affolant, c'est la scène de Léonard de Vinci. Quand les gens ont été interrogés, que ce soit artistique ou etc., ils disent, non, non, c'est le festin des dieux de l'Olympe. En fait, c'est quoi? C'est les deux ensemble. Vous voyez, c'est un mélange des deux. C'est pas mieux, hein, le festin des dieux, que de se blasphémer sur la scène de Jésus. Sauf que là, c'est un blasphème. Là, c'est une affirmation du paganisme. Sous les auspices de Dionysos qui est là, sous les auspices du dieu Pan, qui est le dieu de la luxure et de la nature, et sous les auspices d'Apollon, qui est au centre de la table, qui lui, c'est l'homme qui est exalté au plus haut niveau. C'est l'humanisme, le transhumanisme. Donc, c'est très compliqué parce que, en fait, c'est une ouverture qui a été faite pendant 4 ans, ça a été travaillé. Et Macron assume. Macron, quand on l'interroge, il assume. Il a dit, ça a été travaillé et tous les messages sont ce que je voulais. Donc, il n'y a pas de souci, il ne recule pas devant. Sauf qu'il faut bien comprendre quel est le message qui a été voulu donner à ce moment-là. C'est clairement un rituel maçonnique. Alors, moi, je n'ai jamais été dans une loge maçonnique, hein, parce que c'est secret. Mais tous ceux qui en font partie, qui peuvent témoigner, c'est un rituel maçonnique qui ouvre une nouvelle ère. En fait, c'est dire, voilà, une ère s'arrête et une autre ère va s'ouvrir. C'est l'ère du transhumanisme. Là, on rentre dans le transhumanisme. C'est plus un humanisme classique, c'est vieux, etc. Il faut maintenant rentrer dans le transhumanisme. Il y a là des images que j'ai mises pour montrer que il y a Jacques Attali, hein, qui est toujours là, qui a suivi tous les derniers présidents, Mitterrand, etc., qui fait une petite vidéo sur TikTok et qui est très claire. Oui, l'écouter. Il est très clair. Il assume. Il a dit, ça s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Il est très content. Il a dit, là, on rentre dans une nouvelle voie. Alors, soit le peuple va retourner en arrière, donc c'est la régression, c'est, voilà, c'est l'horreur, c'est, voilà, les gens veulent ce qu'il y a du passé, ou on va vers l'avenir, et vous verrez dans 10 ans, la société ne sera plus la même. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est que la société accepte tout ce qui a été vu, c'est-à-dire c'est une divination, c'est une projection, une prophétie de ce qui va se passer dans 10 ans. Donc attendez-vous à ne pas être choqué dans 10 ans que ça va être généralisé ce qu'on a vu. Macron, lui, au lendemain de la cérémonie, il s'est adressé en félicitant tous les organisateurs, Thomas Joly, directeur artistique, etc. Il a salué le génie créatif qu'il a développé. Et le scénario privilégié, il a dit, c'est celui que nous avons préparé. Celui que nous assumons. Celui que nous voulons. C'est évidemment celui qui a été prévu avec l'ensemble des organisateurs et dont les détails sont dévoilés en temps et en heure. Il était interrogé jusqu'au dernier moment. Il a dit, c'est un secret, vous allez voir. Vous voyez, un secret. Vous allez découvrir tous ce que nous avons prévu. C'est le chef d'État qui a dit ça en marge de l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis, quand il était interrogé par les journalistes. Jacques Attali, lui, comme je le disais, il a dit que tout s'est bien passé, et on verra dans 10 ans, les mœurs qui vous ont été présentées feront partie de la société. Et si on a régressé C'est un passé obscurantiste et conservateur, mais je crois que la France a montré la voie. Donc l'objectif, c'était de montrer la voie au monde entier, le type de société qu'on veut. J'ai écouté beaucoup d'autres, hein, que ce soit Thomas Joly, Catherine, celui qui était déguisé en Dionysos. En fait, ils sont partiellement conscients et inconscients. Donc les premiers sont conscients, et ils le disent, ils assument. Les autres sont partiellement conscients, en grande partie conscients, de leurs pratiques sexuelles dévoyées, parce qu'ils ont tous des pratiques sexuelles dévoyées, du point de vue de la Bible, qui croient normales, donc ils se défendent en disant ben, « on n'a pas voulu choquer qui que ce soit, hein, mais bon, il faut nous accepter comme ça, bon, ok ». Et d'autres qui ont participé à toute cette mise en scène, ce sont les drag queens, entre autres, qui se vantent de participer à ça, pour être vus du monde entier, il y avait 2 milliards ou plus, qui les ont gardés. Donc en fait, eux ne sont pas du tout branchés sur les symboles et tout ça. Eux, ils vivent leur vie et il faut les accepter comme ça. Alors une chose qui est sûre, c'est que cette oligarchie, ce petit panel de gens qui sont extrêmement riches, hein, c'est la haute finance, ils vont vers des bacchanales. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des bacchanales. C'est en fait la religion qu'on appelait l'orphisme en Grèce. C'est une religion un peu laïque, vous voyez. Donc du coup, c'est une religion qui est plus philosophique. Et cet orphisme, eh bien, vous voyez, elle est représentée par ces multicouleurs qui d'ailleurs ont été portées par les drag queens, qui en fait sont, c'est un refus de l'ordre social. À l'époque, déjà en Grèce, ceux qui étaient dans l'orphisme, dont Platon faisait partie, ils refusaient l'ordre social, de garder cet ordre qu'on présente aujourd'hui. Il faut le casser, il faut casser les codes. Voilà. Et leur culte, c'est le culte à Dionysos, comme par hasard, ou à Bacchus. Dionysos, Bacchus, c'est la même chose. C'est le dieu de la fête. Donc il faut fêter, les amis. Il faut fêter, le monde entier doit fêter, vous voyez, c'est rentrer dans la fête. Et là, on a un monument hein, qui montre les bacchanales à l'époque. Et sachez que les Romains ont interdit les bacchanales en 186, parce qu'il y avait tellement d'horreurs dans ces bacchanales que ça déstructurait la société. Ils ont été interdits. Et là, ils veulent les remettre. Donc, vous voyez qu'on va vers le chaos avec ce genre de pratique. Dès dans le chaos, tout à fait. Et Dionysos, en fait, c'est exactement le même que Shiva. Et c'est pour ça qu'il était en bleu. Pourquoi il était peint en bleu? Parce que Shiva et Dionysos, qui est un dieu hindou, qui est le dieu du yoga, eh bien, il est exactement la même chose. Et là, vous voyez, Dionysos qui est sur le trône, entouré de femmes, certainement de drag queens de l'époque, hein, et qui est représenté par un taureau aussi. Donc tout ça, et c'est l'origine du théâtre. C'est pour ça, ici aussi, il y avait le théâtre. C'était l'origine du théâtre, c'était des rites de passage. Vous savez, il y a des rites de passage qui sont innocents, on passe de la vie de garçon à vie d'adulte, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas méchant, c'est amusant. Mais il y a des rites qui sont introduits par des sociétés secrètes pour vous faire passer dans d'autres types de conscience. On change votre conscience, que vous êtes d'un état, d'un autre. Et c'est ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on change de conscience, qu'on accepte ça comme quelque chose de normal. Et ceux qui l'ont pas, et ceux qui vont pas l'accepter, eh bien, ils seront mis de côté. Alors, il y en a un qui a préparé cette voie, hein, c'est François Mitterrand, en créant l'Arche de la Défense à Paris. Il a recouvert à ce moment-là l'or, un peu de tous les monuments, dont d'ailleurs la tête de la vache, du veau d'or. C'est pour ça qu'ils disent, mais non, on ne l'a pas mis là. Sauf qu'ils l'ont bien mis en scène pour qu'il soit bien là. Et c'est pour ça qu'ils peuvent toujours se défendre. Hein. Mais ne croyez pas à leur défense, parce que c'est simplement pour mieux se cacher. Et en fait, il a recouvert tous ces monuments pour préparer la voie. Et il a dit, je prépare la voie du grand monarque. Oh, j'ai cherché pendant des années. Qu'est-ce que ça veut dire le grand monarque? On ne sait pas. Ah, c'est Lucifer. En fait, ils travaillent tous pour Lucifer, pour le prince des ténèbres. Et Macron, en 2024, a ouvert la voie officiellement, et son porte-parole, Jacques Attali, eh bien, l'a dit à tout le monde que maintenant, il ouvre la voie spirituellement et officiellement à ce prince de ténèbres. Alors, mes amis, c'est le temps de se réveiller. Voilà. C'est le temps de se réveiller. Vous croyez pas? Si, c'est vrai, ça. Non? Vous croyez qu'on peut rester comme ça, en attendant que ça passe? Déjà à l'époque, Jésus a dit de se réveiller. Alors, combien plus forte raison quand on voit ce genre de choses. D'ailleurs, la flamme a été... vous savez où elle a été allumée? Quand elle est venue à Paris, elle était allumée quelque part en Grèce, mais dans le sanctuaire de Héra. Héra, c'est la reine du ciel. C'est à l'époque, c'était la femme de Zeus. Hein. Et donc, c'est sous l'autorité de cette autorité du dieu de la nature, qui est représentée par Dionysos, mais aussi la reine du ciel. Alors, c'est un rêve qui est là depuis longtemps, dans les cercles fermés, dans les cercles de la haute finance, tout ça. Mais là, maintenant, ils veulent le transférer au peuple, pour que le peuple adhère et que le peuple accepte toutes ces choses-là. C'est un projet qu'on appelle de Prométhée. Vous savez, Prométhée, c'était celui qui prenait le feu du ciel des titans pour les amener aux hommes. Et en fait, c'est Lucifer, Prométhée. C'est celui qui prend la connaissance pour donner aux hommes. Mais c'est une connaissance cachée, une connaissance secrète. Et ce projet existe depuis la chute en Éden. En Éden, Lucifer est venu au travers du serpent et a dit à la femme, tu vois, ce que Dieu a dit, c'est pas tout à fait ça. Il n'a pas dit que c'est faux. Pas tout à fait ça. Vous voyez, c'est une petite ruse. Non, non, tu ne mourras pas. Voilà. Donc, tu peux y toucher. Tu peux y toucher. Et elle a vu, elle a touché, et elle a dit à son mari, maintenant, tu vois qu'on n'est pas mort. Tu peux y aller. Vous voyez l'astuce. L'astuce, c'est un secret. Il n'a pas dit qu'elle va mourir à la fin du compte au bout d'un certain temps, mais il pensait que c'était tout de suite sur place. Tu vois. Et c'est ça les symboles. Tout ce qui est symbolique, c'est quelque chose qui derrière est caché et qui vous sautera à la figure, un peu comme une grenade qui est dégoupillée et qui va vous sauter à la figure. Toutes ces choses existaient dans le monde littéraire, hein, que Michel connaît mieux que moi, par exemple pour Rabelais. Vous avez Rabelais qui a écrit l'abbaye de Thélème. Il y en a qui connaissent ça, hein, bon. Pardon? Oui, alors dans cette abbaye Thélème, c'est un abbaye avec des moines, etc. Mais en fait, il faisait de la luxure, des orgies et tout ça. Vous voyez, il voulait se moquer de l'Église à l'époque. Hein. Et donc, il a écrit cette abbaye de Thélème, où il faisait toutes sortes d'orgies dans cette abbaye. Et il disait, fais ce que voudras, fais ce que voudras. Et c'est ça, Dionysos, c'est fais ce que voudras, fais ce que tu veux. Fais ce qui te plaît. Donc, ce n'est pas nouveau, si vous voulez. Ce n'est pas nouveau. Sauf que là, maintenant, c'est étalé au monde entier. C'est une débauche de masse. On va assister à une débauche de masse. Et c'est une ère initiatique de la dépravation de l'humanité. Il y a de nombreuses tentatives. J'ai parlé tout à l'heure du serpent dans l'Éden. Il a réussi. Il a réussi à faire chuter l'humanité à cause du péché, de la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Il a réessayé à la tour de Babel. Qu'est-ce qu'il a dit à la tour de Babel? Il les a poussés à se faire un nom et à essayer de toucher Dieu de manière physique. Ça s'est terminé par la confusion des langues et la dispersion sur la terre, et nous, on en a encore aujourd'hui les conséquences. Il y a eu, au Moyen-Âge, la construction des sanctuaires à Notre-Dame. Toutes les cathédrales, pratiquement, sont dédiées à Notre-Dame. C'est qui Notre-Dame? C'est Notre-Dame de la nature, c'est Dionysos, si vous voulez. C'est rien d'autre. Donc toutes ces choses existent, si vous voulez. Et d'ailleurs, s'ils ont mis en place, c'était un subterfuge, hein, tous ceux qui travaillaient à Notre-Dame, c'était les compagnons du devoir, hein, c'était ceux qui sont en bas de l'échelle de la franc-maçonnerie. Tout était codé. Hein. Il veut mettre en relation le ciel et la terre, entre les sanctuaires, les puissances célestes et la terre, et les sanctuaires, il y en a qui prennent de l'énergie dans les églises, les cathédrales, parce qu'elles sont... elles sont faites dans ce but-là. Ce sont les maçons qu'on appelait opératifs, ceux qui avaient la truelle et le marteau. Mais au XVIIe siècle, les protestants, c'est venu par les protestants, de toute façon l'ennemi infiltre toujours les chrétiens et les églises, c'est les protestants qui ont créé la franc-maçonnerie, ce sont les maçons spéculatifs. Donc ils veulent changer l'humanité, ils veulent changer l'homme. Donc c'est depuis le XVIIe que le pasteur Anderson a créé la franc-maçonnerie, qui aboutit aujourd'hui à cette volonté de faire du transhumanisme. De toute façon, il n'y a rien de secret, dans la Silicon Valley, ils y travaillent déjà. Ils sont déjà en train d'implanter des choses dans le cerveau, etc. Bon, alors il y a tout plein de freins, hein, de freins, mais bon. Ces freins vont sauter petit à petit si on ne prie pas, si nous ne nous réveillons pas. Ça a été la tentative de la reine de Belgique ici, hein. C'est ce qu'on a découvert. Malheureusement, quand on a eu ce lieu et qu'on a mis 12 ans à nettoyer, parce qu'il y avait cette volonté aussi de sa part de l'établir ici. Mais Dieu, je crois que c'est Julie qui dit ça. Mais Dieu a aussi un plan. Vous croyez au plan de Dieu ?
Amen.
Amen. Je ne vais pas amener la sinistrose ce matin. Mais ce n'est pas moi qui ai fait les jeux. Hein. Vous les avez vus. Donc il faut décoder un petit peu tout ça. Mais à Aubergenville, Dieu a prévu une église qui soit solide, qui soit stable. Et il a prévu depuis 1540, c'est-à-dire presque 500 ans, il a établi une église ici, il l'a bénie. Et elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas parce que les forces de l'Hadès ne pourront pas la faire tomber. Sauf qu'il y a des combats. On a vécu des combats, mais il y a un reste qui reste toujours fidèle à la parole. Et c'est ce reste que je suis en train d'exhorter ce matin pour que nous nous réveillions et que nous soyons veillants et priants. Satan ne gagne jamais avec des gens déterminés. Jamais. Pour le Seigneur. Vous le croyez ? Quels sont ceux qui croient que Satan ne gagne pas avec des gens déterminés ? Ça veut dire que vous êtes déterminés ? Ça veut dire que vous êtes déterminés ? Déterminés à quoi ? À défendre la cause de Christ. Déterminés à prier. Il y a moins d'amen. Mais je pense que ça va monter. Déterminés à défendre la bonne doctrine. C'est pour ça que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est des gens déterminés, les violents. Des violents qui disent non, on n'accepte pas ça. Amen. Il y a trois tentatives que Satan a fait avec Jésus, hein, dont une, c'était de dire, tu vois tous ces royaumes, je te les donne. Jésus n'a rien dit, parce que c'est lui, c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est celui qui prépare à accueillir l'Antéchrist, parce que c'est lui qui dirige le monde. Et il donne à qui il veut le pouvoir. C'est pour ça qu'il s'agenouille devant lui. Pour tous, ils veulent le pouvoir. Et Satan dit, je te donnerai ce royaume si tu m'adores. Donc il veut un culte. Et là, il y a eu un culte au veau d'or. Comme au temps de Moïse. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a répondu Jésus ? On le redit, tu adoreras Dieu seul, et lui seul. Et vous voyez, la réponse de Jésus est, je dirais, banale dans le sens, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Tu adoreras Dieu seul. Il y a deux tentatives qui ont été faites ici pour nous dégager quand on est arrivé, 98-2018, mais Satan n'y est pas arrivé, malgré ces efforts. Parce qu'il y a des gens déterminés ici, vous l'avez manifesté tout à l'heure. Mais vous savez, Chatan va chercher à recommencer. Jamais 203, j'y crois pas, parce qu'on va résister. Amen. On va résister parce que nous sommes placés dans un endroit particulier où nous pouvons faire des choses pour renverser ce qui s'est passé, mes amis. Je vous en parlerai une autre fois. L'heure est grave. L'heure est grave. Et comment allons-nous réagir? Alors, il y a trois choses que je voudrais éviter, que je voudrais dire, bien sûr, pas se taire, c'est l'exhortation du pasteur Samuel. Refuser la stratégie de Balaam. Vous connaissez la stratégie de Balaam? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam et Balak? Balak, c'était un ennemi qui voulait absolument pas qu'il rentre dans Canaan. Parce qu'il savait, il connaît la parole, il savait que s'ils rentrent dans Canaan, ils vont devenir un peuple qui va être son ennemi. Donc, vous voyez, Satan, il veut toujours arrêter les choses avant qu'elles n'adviennent, avant que Dieu puisse le faire. Voilà, c'est toujours sa stratégie. Donc, Balaam a invité Balak, qui était un devin à l'époque, juif, etc., voilà, qui connaissait la parole, et il a invité en disant, écoute, voilà, ce peuple-là, tu vois, il est là, il campe, il va vers Jéricho, là. Là, avant qu'il rentre, tu vas me le maudire. Tu vas me le maudire. Et je te donne de l'argent, tout ça, voilà, etc. Et donc, Balaam a dit oui. Voilà. Balaam est venu, il a commencé à vouloir maudire le peuple, et de sa bouche est sorti les bénédictions. Dieu a utilisé sa bouche pour bénir le peuple. Vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi. L'ennemi n'a pas, au-dessus de l'autorité qu'il a, des gens qui lui donnent l'autorité. Il ne peut pas aller au-delà, et surtout pas avec le peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu, celui qui n'est pas dans l'idolâtrie, celui qui croit dans la puissance de Dieu. Et donc, il a voulu, une première fois, il n'a pas réussi. Et là, il s'est engueulé par Balak, etc. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est quoi ce truc-là? Ça ne va pas. Oh, madame, non! Je vais recommencer. Alors, ils se sont déplacés sur une autre montagne. Il y a trois montagnes, là, en face de Jéricho. Donc, ils sont allés sur la deuxième montagne. Rebelote, au moment où il va prononcer des malédictions et des bénédictions qui sortent. Des bénédictions sur les tribus d'Israël, etc. Rebelote, il se fait sermonner et il dit, bon, bah, de toute façon, tout ce que je t'ai promis, c'est fini, hein, tu n'auras pas. Non, mais... pas grave, je vais recommencer une troisième fois, et cette fois-ci, là, ce sera la bonne. Ce sera la bonne. Donc, il va à Baal-Péor. Baal-Péor, c'est là où il y a un Moloch hein, qui est adoré pour recevoir les bébés en sacrifice, etc. Et là, il recommence. Et alors là, c'est une bénédiction qui sort de sa bouche, mais qu'on a aujourd'hui encore dans la parole de Dieu, qui est extraordinaire, extraordinaire. Alors là, il a dit, bon, maintenant c'est fini, tu dégages de là, tu n'as plus rien, je n'ai plus rien à voir avec toi. Il dit, attends. Je sais comment tu vas les attraper, le peuple de Dieu. Allô? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelqu'un qui sait qui est ici? Voilà. Il a dit, ah, les filles. Tu utilises la débauche. Tu utilises Dionysos, Dieu de la fête. Tu fais des fêtes au-dessus des montagnes, au-dessus des collines, là, tu vois, en face, là, c'est pas un problème, hein, c'est facile. Tu demandes simplement à tes filles, ils sont très heureux d'ailleurs de faire ça. Donc, tu fais des fêtes au-dessus, voilà, et avec des tambourins et machins et tout ça pour les attirer. Et du coup, les Israélites qui ont vu ça, ils ne pouvaient pas faire ça chez eux. Ah! On y va, on n'y va pas, voilà, etc. Vous voyez, au début, c'est un peu hésitant, puis après, on trouve ça normal. Et en fait, les gars, ils se sont retrouvés sur les collines, et ils ont fait la débauche. Et en fait, Balaam a dit à Balak, tu vois, c'est beaucoup plus facile, ils se maudissent eux-mêmes. La malédiction, elle était là. Il fallait qu'il y ait une malédiction qui soit prononcée. Elle dit, bah, il se maudit ce-même. Donc, tu vois, tu n'as rien à faire, juste les filles. Tu envoies ça, tu fais des fêtes. Bah, des filles et des drag queens, certainement. Enfin, il n'y a pas que la débauche hétéro. Hein, il y avait tout là-dessus. Il y avait même. Dans les bacchanales, ils faisaient même exprès du son très fort pour ne pas entendre les gens qu'on égorgeait. Parce qu'il y avait, bien sûr, quand on est sous et tout ça, on fait tout et n'importe quoi. Bon, mais je peux rester là-dessus, sur ce tableau macabre. Mais c'est la réalité. Donc, il y a la première stratégie, l'orphisme, qui est les bacchanales, qui est la débauche, mais qui va en même temps avec ce que Balaam a proposé. Et voilà ce que dit Ésaïe 52. Ésaïe 52 dit « L'Éternel découvre les bras de sa sainteté. » Parce que Dieu, il est saint. Il n'est pas dans les orgies et dans les bacchanales. « Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Voyez-vous, si nous sommes confiants dans cette période qu'on veut nous introniser, qu'on veut nous introduire, eh bien, si nous suivons, il n'y a pas que cette exhortation dans Ésaïe, il y en a ailleurs, hein, qui dit « l'Éternel est saint ». Il ne peut pas jouer avec ça, et en fait la malédiction va venir à cause de ça. Hein. Et donc, il faut sortir de là. Alors on verra comment sortir, c'est pas forcément physiquement, mais voilà, en tout cas, spirituellement, mentalement. Il faut adopter, les amis, l'attitude d'Abraham. Vous connaissez Abraham ? Père de notre foi. Extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était devant Sodome et Gomorre ? Parce que lui, il a choisi les montagnes. Rappelez-vous, au début de l'histoire, avec Lot, il a dit « Qu'est-ce que tu choisis ?» Il a laissé choisir Lot. Il aurait pris l'inverse si Lot avait choisi les montagnes et lui la vallée. Lot a dit « Non, je vais la vallée. Bon, il y a de l'herbe, il y a le confort, il y a tout ça, etc. » Bon, ok, Lot l'a choisi. Abraham a choisi les montagnes, avec ses troupeaux, beaucoup plus durs. Bien sûr, en tant que chrétien, c'est plus dur, entre guillemets, de vivre qu'en se laissant aller comme Lot. Et Lot, en fait, il a été pris dans cette civilisation Sodome et Gomorre, qui est en fait exactement la même chose que les bacchanales dont on parle ici et qui vont se répandre. Et en fait, Abraham, à qui Dieu a parlé, parce que Dieu parle à ses serviteurs, à qui Dieu a parlé, il a dit « Je vais détruire, parce que c'est trop horrible ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas laisser ça. » À un moment donné, Dieu, il dit « Stop ». Il laisse jusqu'à un certain temps. Et là, il a prévenu Abraham en disant « Là, je vais intervenir. » Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham ? Il a plaidé. Il a plaidé. Il a intercédé. Qu'est-ce que nous devons faire, les amis ? Est-ce que nous devons regarder comme ça le tableau passé et comme les vaches qui regardent les trains passer, ou est-ce qu'on va se lever ? Comme dit Samuel, ne nous taisons pas, mais ne nous taisons pas devant Dieu. Nous pouvons réclamer des personnes innocentes, parce qu'il y a des personnes conscientes, je vous l'ai dit, des personnes inconscientes, et qui sont prises dans ce système-là, et on a le droit de les présenter devant Dieu. Non ? Ça ne vous semble pas normal de prier pour ceux qui vous entourent, pour vos amis, pour votre famille déjà, hein, parce que la famille peut être entraînée dans ces choses-là. Vous voyez, on reviendra sur ces choses-là. Là, ce matin, je ne peux pas m'étendre plus que ça sur cette dimension de ce que Dieu attend de nous. Mais il attend de nous qu'on soit comme Abraham. Abraham qui a plaidé avec Dieu pour éviter la destruction de Sodome et de Gomorre. Et mes amis, je crois que Dieu a appelé, en particulier cette église, à plaider pour la France. Rien que ça. Moi, j'y crois. À plaider pour la France. À plaider pour des autorités qui ne sont pas forcément conscientes, comme je les ai mentionnées, mais d'autres, qui sont pris dans la nasse, qui sont perdus. Et il faut qu'on plaide. Et Abraham est parti de 50 justes. S'il y a 50 justes, est-ce que tu vas continuer à détruire cette ville ? Il a dit non. Abraham, Dieu lui-même a dit non. Et il a négocié comme ça. Vous savez, on est au Moyen-Orient, donc en fait, on négocie tout, on marchande. Et en fait, il est arrivé jusqu'à 10. Là, il s'est arrêté. Parce qu'il ne voulait pas aller plus loin que ça. Mais 10, Dieu a accepté. Ce qui fait qu'il a pu sauver Lot, sa femme, ses filles, pour les faire sortir. Sinon, ils auraient été détruits en même temps que Sodome et Gomorrhe. Est-ce que, mes amis, est-ce que toi qui es assis là, tu veux regarder la destruction comme ça sans rien faire ? Ou si tu es chrétien, c'était violent pour le royaume, tu vas réclamer au Seigneur, mais tous ceux qui sont justes, que Dieu connaît, mais qui peuvent sortir de là, qui peuvent prendre position, qui peuvent réagir à ça. Parce qu'Athalie a bien dit, il y a deux possibilités, ou on va vers ça, ce qu'il espère, ou on revient en arrière, on peut aussi revenir en arrière et accepter les valeurs d'une famille normale. Vous voyez ? Mais ça, ça se fait à genoux. Moi, je ne crois pas au militantisme de la rue. Parce que l'ennemi s'en sert de tout ça. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas ne rien dire, mais il faut prier. C'est la prière. Mes amis, c'est spirituel. Il y a une ouverture spirituelle qui a été faite dans le ciel. Et c'est contre ça qu'il faut réagir. Et il faut sortir de là. Mais même Lot qui est sorti avec sa femme, où sa femme, elle était sauvée, mais elle était quand même attirée et elle s'est terminée en statue de sel. Parce que ses sentiments allaient vers, je ne sais pas, ses amis ou autres, etc. Mon serviteur prospérera. Et toujours Isaïe, chapitre 52, verset 13. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage s'est défiguré, donc il s'agit de Jésus, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait été point raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Seigneur, mes amis, nous avons un Seigneur qui règne. Et nous régnons avec lui dans les cieux. Mais nous devons être son bras droit sur la terre pour proclamer les vertus, comme nous l'avons fait ce matin. Mais il faut le faire encore plus. Et il faut le faire là où Dieu nous a placés pour être son témoin. Amen. Donc, je rappelle les trois choses que je propose. C'est refuser la stratégie de l'idolâtrie de Balaam. C'est d'adopter l'attitude d'Abraham, de plaider avec Dieu. Et donc, la troisième chose tout naturelle, c'est prier sans cesse. Jésus a dit, priez. Priez, vous ne pouvez même pas prier une heure avec moi. Il l'a reproché à ses apôtres à l'époque, alors qu'il était dans le combat pour porter nos péchés. Et ensuite, après, bien sûr, les apôtres ont exhorté à prier sans cesse. Je vais terminer. Donc ça, c'est la stratégie de Balaam. Oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la stratégie de Balaam, elle se retrouve dans une doctrine qu'on appelle le nicolaïsme. Pourquoi ? Parce que Nicolas, c'était un des sept diacres qui avait été consacré à l'église d'Antioche. Vous voyez comme quoi l'ennemi, il recrute parmi les chrétiens, ceux qui détruisent le plus, les juifs, les chrétiens, etc. Il a recruté parmi les douze apôtres, c'est Judas, il a recruté pour trahir Jésus. Ici, dans la première église, il est allé à l'église d'Antioche, et le septième diacre, c'était Nicolas. Et Nicolas a mal tourné, et c'est le premier d'une lignée pour introduire la magie et la sorcellerie dans l'Église. C'est le nicolaïsme. C'est un terme pour dire que c'est la manière dont fonctionne Nicolas. Et dans Apocalypse, chapitre 2, verset 6, à l'église d'Éphèse, il y avait les sept églises, hein, et la première église d'Éphèse, Dieu dit, enfin l'ange qui parle pour cette église, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Mes amis, le Seigneur, il hait ce qui s'est passé. Cette dépravation qui a été présentée au monde entier comme une nouvelle ère dans laquelle on va entrer, le Seigneur, il hait cela. Et il a dit que celui qui entende, entende à la fin de chaque église, chaque dans l'Apocalypse, et il a dit, celui qui vaincra, je l'assiérai sur mon trône, à côté de mon trône, avec moi sur le trône. Et nous avons une promesse de régner avec Jésus. Mais il faut que, dans le temps présent, nous puissions vaincre ces puissances, vaincre ces autorités spirituelles qui nous agressent, qui agressent l'humanité. Est-ce que vous êtes prêts à être des vainqueurs, comme Jacob? Rappelez-vous Jacob, le tordu, le rusé, voilà, il avait plein de défauts dans lesquels on peut se retrouver en partie. Hein. Et quand il est revenu pour rentrer dans le pays de Canaan, il y avait son frère, Ésaü, qui l'attendait, qui lui était haï de Dieu parce qu'il était contre le plan de Dieu. Il a donné naissance au peuple édomite, qui était ennemi du peuple d'Israël. Eh bien, cette nuit-là, l'ange de Dieu s'est battu avec Jacob. Et à l'aube, l'ange a disparu, et avant de disparaître, eh bien, il l'a appelé Israël, le vainqueur de Dieu. Chacun d'entre vous, vous pouvez être vainqueur ou être vaincu. Il n'y a pas entre deux. Ou on est vainqueur, on est vaincu. Dans l'ère dans laquelle on va, hein, attention. Jusqu'à présent, bon, vous pouvez s'en sortir, voilà. Là, c'est fini, les amis. Il faut prendre position dans son cœur, de dire, je n'accepterai pas ça. Déjà pour moi, pour mes enfants, pour les générations, et je veux me lever, pour que cette vague qui va déferler, parce qu'elle a commencé, eh bien, je puisse être de ceux qui sont vainqueurs. Amen. De ceux qui sont vainqueurs, et que nous puissions être au bénéfice eh bien, de la bénédiction de Dieu et être assis avec Jésus. Ésaïe, oui, je vous l'ai lu, hein, il dit « Sortez du milieu d'eux, sortez de ce milieu-là, n'ayez aucun lien avec ces pratiques tordues, et priez sans cesse. » Amen. Je terminerai en vous disant que le Seigneur, à la suite de ça, m'a demandé de lancer un programme dès la rentrée, qui sont trois choses. Trois choses. J'hésitais un petit peu à vous le dire ou passer par des intermédiaires, non. Le Seigneur m'a dit, cette Église, s'il veut vaincre, s'il veut rentrer dans la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait trois choses, qu'on remette en place, qu'on a eues pendant 20 ans, je le rappelle. C'était les semaines de repentance. Chaque année, j'ai commencé une semaine de repentance en septembre, sauf dans ces dernières années de crise, c'était impossible de le faire. Semaine de repentance. Repentance et prière. D'ailleurs, les Juifs le font systématiquement avec le Yom Kippour. Et une répétition, ce n'est pas négatif. Si vous êtes dedans dans la répétition, c'est comme venir au culte, ce n'est pas négatif. Vous avez tout, ou faire la Sainte-Seine, etc. Ça dépend comment on le fait, si on le fait de manière répétée ou pas. Donc, la repentance, je reproposerai une semaine de repentance et on va la conduire tous ensemble fin septembre. La deuxième, c'est la reprise des rassemblements d'adoration, de louange, d'intercession que je propose d'appeler des rallyes. Les rallyes d'Elisa qui remplacent les moving glad. Hein. C'est des rassemblements où on adore, on loue, on intercède, on est ensemble devant le Seigneur. Plus qu'un temps de culte, ça se fera ou un samedi ou un dimanche après-midi, pour qu'on puisse avoir le temps de ce que ce matin on a fait pendant 2-3 heures. Je rappelle que j'étais déjà conscient de ces enjeux-là depuis des années, et j'avais demandé à Fabienne Ponce et d'autres de venir, et on avait fait 48 heures de louanges et d'adoration non-stop. Non-stop. Ici, dans cette salle. Ça n'a jamais été fait en France. Ils avaient fait 24 heures, mais pas 48 heures. Et donc, quand j'ai proposé ça, il a dit, mais c'est fou, mais on va compter sur le Seigneur pour le faire. Bon, il y a 12 groupes qui sont venus. Mais quand il y a un groupe qui est monté, dès la fin de la louange, les autres s'étaient déjà préparés derrière. Il n'y avait pas de, il y avait pas d'arrêt. C'était la louange continue. Hein. Et donc, les prochains ont repris la louange avec la guitare, avec la musique et tout ça. Et 48 heures, on a fait comme ça, louange, adoration, intercession, prophétie, etc. Mes amis, ça dégageait ici, hein, spirituellement. Ça levait le plafond. Hein. Ça levait le plafond spirituel. Eh bien, on va recommencer. On va recommencer. Parce que si c'est le moyen de faire une percée, est-ce qu'il y en a qui sont d'accord pour faire une percée spirituelle? Vous voulez faire une percée spirituelle? Ben, ça passe par la louange, l'adoration, comme ce matin. Amen. Mais encore plus. Et avec des gens qui viennent de partout en France. Hein. J'ai déjà pris des contacts de certains qui sont très très connus au niveau artistique, au niveau louange. Et on va monter ça. Et si ça vient du Seigneur, eh bien, on pourra avoir des temps d'adoration magnifique pour que la présence de Dieu descende et que, eh bien, il puisse faire des miracles, des prodiges, etc. Amen. Et une dernière chose, c'est que je voudrais démultiplier les trios du phare. Alors, il y a les trios de croissance, là, j'en parle pas. Les trios du phare. C'est quoi les trios du phare? Les trios du phare, c'est une révélation que le Seigneur a fait dans cette église au moment où j'étais prêt à partir, parce que j'étais découragé. Et je dis, Seigneur, je l'ai dit à Michel, s'il ne se passe pas ça, moi je m'en vais. Et le Seigneur a changé les choses. Vous voyez, comme quoi, le Seigneur, il change souvent les choses au dernier moment. Au dernier moment. Le trio du phare, c'est simplement Constant qui est là, Charles et moi, qui se sont retrouvés, miraculeusement. On ne s'est pas coopté, simplement, on s'est retrouvés dans la prière, l'intercession. Et c'est une prière d'intercession qui va plus loin, simplement demander au Seigneur, mais c'est une prière de type Abraham, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour se battre contre ces puissances infernales qui veulent nous amener au chaos. Et on s'est battu, et on continue à se battre. Mais je pense qu'il y a d'autres trios. Alors, pour l'instant, on grandit. Merci Seigneur, il y en a d'autres qui nous rejoignent. Mais je pense que trois, c'est quand même quelque chose qui permet à chacun de prendre la parole assez souvent, etc. Et puis, ça démultiplie. Et ça permettra à d'autres églises de nous rejoindre. Parce que l'idée, c'est que cette chapelle de prière que Dieu a voulu ici, eh bien, soit remplie de toutes sortes de chrétiens de toutes les églises qui viennent prier, intercéder, louer, adorer le Seigneur. Un moment où Dieu va être glorifié et élevé, son nom va être élevé. Donc, par la suite, je pense que trois par trois, je dis ça parce que quand vous êtes tout seul, vous avez déjà remarqué que c'est difficile de rester éveillé le matin ou le soir pour prier. Qu'est-ce qui a remarqué ça? C'est difficile. Bon, c'est difficile. À deux, c'est beaucoup plus facile. À trois, c'est encore mieux. Après, on se gêne un petit peu parfois. Bon, bien sûr, on peut aussi faire... Mais là, il faut l'organiser un petit peu, les intercessions, etc. À trois, c'est assez facile. Donc, si on se met trois par trois, petit à petit, qui viennent à des moments différents dans cette chapelle de prière, il y en a d'autres, on va pouvoir montrer l'exemple à d'autres, que quand on se met à genoux, quand on prie, quand on intercède, on a des victoires. Amen. Et l'ennemi recule. L'ennemi est obligé de reculer. Parce que ce qu'il craint, c'est la prière. Amen. Rappelez-vous, la première des choses que les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que c'était le secret de Jésus. Vous aimez les secrets ? Pas les secrets maçonniques, hein, mais les secrets de Jésus. Jésus, il avait un secret, il priait le Père. Ah ben, si on veut connaître le secret de Jésus aujourd'hui, eh bien, c'est de prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il est saint. Il est saint. Et tout à l'heure, dans Ésaïe, on a lu que Dieu est saint. Il a dit « Sortez de ce milieu ». C'est-à-dire que dans la prière, pendant qu'on est en prière, on ne peut pas être dans le monde, donc on est déjà sorti, vous voyez. Donc ça va dans ce sens-là. Hein, voilà, donc j'aimerais terminer là-dessus en priant. Mais honnêtement, j'étais tellement bouleversé que j'ai dit « C'est pas vrai, Seigneur. On vit ça. Moi, je vis ça. Nous, on vit ça. » Depuis 2000 ans, les chrétiens, ils disent « Quand est-ce que ça va arriver ?» Ben, mes amis, ça arrive. Alors, je ne peux pas vous dire que demain, Jésus va venir, hein, ça peut être en 10 ans, 20 ans, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a les forces infernales qui vont déferler parce qu'ils ont reçu l'autorisation au plus haut niveau de la planète. Et donc, il faut se mobiliser. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est comme si on disait, mais tiens, la France est attaquée par... La Russie, c'est trop banal, mettons, je ne sais pas, c'est un pays quelconque. Et puis on dit, bon, ok, on va se laisser attaquer. C'est exactement la même chose. C'est sur le plan spirituel. On se fait attaquer par ceux qui croient dans ce qu'ils font. Est-ce que nous, nous croyons que Jésus est plus fort ? Qu'est-ce qui croit que Jésus est plus fort ? Amen. Eh bien, c'est à nous de faire appel à Jésus, de dire, Seigneur, tu vois, nous, on ne veut pas faire partie de ça, on veut faire partie des vainqueurs. Amen. Seigneur, je te prie pour que nous puissions être des vainqueurs. Je vous invite à vous lever pour prier, pour que nous soyons un peu comme des soldats, hein, des soldats équipés pour la bataille. Amen. Seigneur, tu nous as appelés à être des soldats. Souvent, on chantait ce chant, soldat, c'est quoi le chant du réveil ? Dieu a une armée qui se lève. Hein. Voilà, on est l'armée du Seigneur, l'armée dans la prière, l'armée dans l'intercession, l'armée dans la consécration, amen, de la sainteté. Eh bien, Seigneur, fais de nous cette armée que tu aimes, pour que, Seigneur, nous puissions être à ta gloire, et que, Seigneur, nous puissions être un instrument entre tes mains pour faire reculer ces vagues de ténèbres qui veulent nous envahir, et qui veulent envahir tous nos bien-aimés, tous ceux qui sont autour de nous et qui sont victimes de toutes ces attaques spirituelles, mais aussi qui vont aller plus loin au niveau légal et du droit qui va évoluer. Seigneur, nous te demandons ta grâce, pour nous aider à nous lever, parce que nous ne sommes pas capables de nous lever nous-mêmes. Comme ce matin, on s'est levé physiquement, mais Seigneur, spirituellement, c'est plus difficile, parce que nous sommes dans une gangue, nous sommes pris dans quelque chose qui nous retient spirituellement. Seigneur, libère-nous, libère le peuple de France, libère, Seigneur, ce peuple qui était la fille aînée de l'Église, qui était les rois très chrétiens, qui pendant 1000 ans ont donné l'exemple au monde. Seigneur, que tu puisses faire grâce, Seigneur, grâce à notre pays, grâce, Seigneur, à cette destinée qui était la nôtre et que nous voulons reprendre. Et Seigneur, grâce à cette Église que tu as appelée, Seigneur, depuis plus de 500 ans pour être un phare dans une ville refuge, Seigneur. Il y a des gens qui vont venir, qui vont apprendre de nous, qui vont nous rejoindre pour prier, intercéder. C'est ça notre rôle. Et pour les amener à comprendre les choses spirituelles. Seigneur, veuille nous aider et nous remplir, Seigneur, de ta présence, afin que nous puissions aller jusqu'au bout et, Seigneur, être debout quand tu viendras. Seigneur, comme les vierges sages, nous ne voulons pas être endormis, mais nous voulons que nos lampes soient remplies de cette huile, Seigneur, du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.